Ein Witte vom Dach beim Maurice Molitor, als Lord Präsidentin von der FEDIL.
Michel Detaille, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes aujourd'hui le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Est-ce que cette journée, cette date, a pour vous une signification particulière au-delà de sa valeur symbolique ?
Je pense que dans le monde, les droits des femmes ne sont pas respectés partout de la même façon. Il y a sûrement encore des choses à améliorer chez nous, en Europe et au Luxembourg, mais il y a encore toute une partie du monde où vraiment les droits de la femme n'existent pas ou sont bafoués tous les jours. Et donc, dans ce sens-là, c'est important. Mais mon souhait le plus cher serait qu'on n'ait plus besoin d'une journée comme celle-là.
Alice Schwarzer, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, c'est une figure emblématique du féminisme allemand. Elle vient de publier un texte dans lequel elle plaide pour une abolition de cette journée qui, à son avis, ne sert à rien. Elle rappelle d'ailleurs dans le même contexte que la journée du 8 mars était une invention des anciens pays socialistes d'Europe de l'Est et non pas une revendication du mouvement féministe. Les sujets abordés à l'occasion de cette journée sont toujours les mêmes. On parle de violences domestiques, on parle des déséquilibres entre femmes et hommes dans le partage du travail domestique, dans le monde du travail, salaire, accès aux postes de responsabilité. Les années se suivent et les discours se ressemblent. Ou est-ce une vue trop négative sur cette journée du 8 mars ?
Moi, je pense qu'il y a une vraie évolution. Et tout à l'heure, vous avez dit, dans l'annonce de notre discussion, que j'étais la personnalité reconnue par Paper Jam comme la plus influente. Si vous regardez le journal de Paper Jam cette fois-ci, avec les 100 femmes qui décident ici au Luxembourg, on n'aurait pas pu faire, il y a 20 ans, ce même article. On n'aurait pas pu le faire avec des femmes aussi diversifiées. Et je pense que c'est là qu'on voit vraiment le progrès, c'est qu'il n'y a plus un modèle de femme qui a des responsabilités et qui exerce une partie du pouvoir. Il y a maintenant des tas de modèles de femmes, comme il y a des tas de modèles d'hommes. Donc moi, je dis qu'on est sur la bonne voie, mais c'est vrai qu'il reste de gros problèmes. On l'a vu avec le Covid, il semblerait que les violences intrafamiliales se sont développées. Donc c'est aussi et surtout les hommes qu'il faut éduquer.
Mais quelles seraient les principales mesures à prendre, les premières, si vous en aviez la possibilité ?
Alors, en ce qui concerne l'accès à des postes à responsabilité, c'est de ça que je parlais principalement. Moi, je dis aux jeunes femmes, aux jeunes filles, faites des études qui vont vous amener à prendre des responsabilités. On manque de compétences en technique, en sciences, en mathématiques. Eh bien, faites ces études-là. Vous êtes capable de le faire, puisqu'en médecine, il y a plus d'étudiantes femmes féminines que d'étudiants masculins. Donc, ça n'est pas une question, comme on l'a dit pendant des siècles, non, le cerveau de la femme ne peut pas avaler ce genre de matière, allez-y et là vous trouverez de quoi vous épanouir si vous le voulez dans la vie professionnelle, parce que chercher un poste à responsabilité, il faut le rappeler, n'est pas une obligation ni pour les hommes ni pour les femmes.
Qu'est-ce que vous pensez d'instruments comme le quota de femmes dans les conseils d'administration par exemple, ou en politique, n'importe, pour faire avancer le schmilblick?
Alors, j'y suis opposée et je sais qu'on va dire, mais évidemment, elle y est opposée parce qu'elle y est arrivée. Je pense que ce n'est pas que pour ça que j'y suis opposée. J'y suis opposée parce que c'est une règle en plus et qu'on a déjà suffisamment de règles qui empêchent l'efficacité, notamment dans les entreprises. Et je pense que ce qui est important dans les conseils d'administration, mais aussi dans les directions opérationnelles des entreprises, c'est la diversité. Il faut des femmes, il faut des hommes, il faut des jeunes, il faut des autochtones, il faut des gens qui ont une culture étrangère. Et c'est ça qui est important, c'est la diversité, parce que c'est dans la diversité qu'on arrive à prendre les bons choix.
Économie et politique, vous connaissez les deux mondes. Vous étiez bourgmestre et député en Belgique, ensuite chef d'entreprise et lobbyiste, maintenant essentiellement à Luxembourg. Je ne vais pas vous demander lequel des deux pays est le plus misogyne, mais lequel des deux domaines ?
Je ne sais pas s'il y en a un qui est plus que l'autre. Ce que je peux dire, c'est que le monde politique est beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile à vivre que le monde économique. Vous avez des attaques personnelles en politique que vous avez très peu dans le monde de l'économie. Dans le monde de l'économie, les règles sont assez claires. Vous avez des concurrents, vous avez des clients, vous vous méfiez de vos concurrents, vous voulez satisfaire vos clients et à la fin de l'année, vous voulez avoir créé de la valeur pour l'entreprise que vous dirigez. En politique, c'est très difficile de dire quel est l'objectif ? On dit souvent que les politiciens veulent se faire réélire. Mais évidemment, s'ils ne sont pas réélus, ils sont en dehors du jeu. Donc, il faut, c'est un préalable qu'il soit réélu. Mais après, c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est faire une carrière? Est-ce que c'est faire triompher son parti? Est-ce que c'est faire triompher le bien commun? Et qu'est-ce que c'est que le bien commun? Vous voyez, ça peut nous amener très loin.
Le magazine Paper Jam, je l'ai dit, vous a consacré décideur économique la plus influente du pays. Il y a sans doute des mauvaises langues, des jaloux, des vilains qui disent que vous devez cette récompense au seul fait d'être une femme. Est-ce qu'on vous a fait la réflexion?
Alors, pas à moi directement, mais je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait sans le dire vraiment. Non, pas du tout. Moi, je suis une femme, je suis très contente d'être une femme. Et quand on me propose un job, et s'il m'intéresse, je le prends et j'essaie de le faire au mieux. Et souvent, je dis, c'est clair, si je n'étais pas une femme, je ne serais pas à tel endroit, parce que dans certains conseils d'administration, on cherche des femmes. Donc, si j'étais un homme, je n'aurais pas eu le job, puisqu'il fallait trouver une femme. Mais voilà, c'est comme ça. Après, je fais ce que je pense être le mieux et ça n'est vraiment pas un problème pour moi.
Madame de Taille, parlons un peu de l'industrie qui a moins souffert que d'autres secteurs de la crise du Covid. L'activité reste cependant freinée. Pourquoi ?
Oui. Alors, je veux juste un peu nuancer. C'est vrai qu'on a moins souffert, mais on a quand même des secteurs dans l'industrie qui souffrent. Et je pense notamment à des secteurs qu'on oublie parfois un peu, qui sont tous les services à l'industrie. Par exemple, la restauration collective, par exemple, le nettoyage, par exemple, la sécurité. Toutes ces entreprises souffrent plus que l'industrie classique elle-même, puisque il y a moins de travail pour elles. Il y a aussi des secteurs comme le transport aérien de passagers qui souffrent beaucoup. Il y a le secteur qui sert l'automobile ou l'aéronautique. Donc là, il y a quand même des secteurs qui sont en souffrance.
Mais qu'en est-il des carnets de commandes, en général ?
En général, les carnets de commandes, hormis ces secteurs dont je viens de parler, sont plutôt bons. Mais il y a certains freins qui sont des freins, par exemple, logistiques. L'approvisionnement depuis l'Asie est compliqué. L'approvisionnement en marchandises, les déplacements pour nos commerciaux, pour les techniciens qui doivent aller soit vérifier, soit implanter des usines, soit vérifier la qualité des produits qu'on a livrés dans le monde, tout cela, ils sont cloués au sol. Donc, il y a des freins pratique.
Puis il y a la vaccination aussi de vos personnels.
Voilà, la vaccination du personnel qu'on attend avec impatience.
Voilà, en Allemagne, plusieurs entreprises ont déclaré leur intention ou leur volonté de vacciner eux-mêmes leurs salariés. Est-ce que c'est une idée qui est discutée également dans le monde des entreprises luxembourgeoises ?
Ah, on est créatif dans le monde des entreprises luxembourgeoises, donc il y a des tas d'idées qui circulent. Globalement, l'idée qui prédomine est évidemment de rester dans ce qui a été décidé par le gouvernement, à savoir la vaccination est une affaire d'État. Maintenant, si on peut, au sein de grandes entreprises ou au sein de zones industrielles, organiser les vaccinations en accord, bien entendu, avec le gouvernement et dans le respect des vaccins qui sont livrés aux États et qui ont été approuvés. Il ne s'agit pas de faire de la vaccination sauvage, mais si on peut aider en organisant des endroits où on peut vacciner les salariés, c'est sûrement quelque chose pour lequel les entreprises sont prenantes. À savoir aussi qu'il y a un problème aujourd'hui, c'est que les frontaliers ne peuvent pas être vaccinés ici. Donc ça complique quand même un peu la tâche pour les entreprises du privé de pouvoir vacciner les résidents et pas les autres. Mais bon, ça viendra sans doute en
mais
son temps.
Est-ce que ce projet de vacciner dans les entreprises est toujours au stade de l'idée ou est-ce que vous avez déjà entrepris des démarches plus concrètes?
Alors on réfléchit évidemment au sein de la FEDIL, au sein de l'UL, donc on a mis en place des plans théoriques au cas où, de la même façon qu'on se prépare à des campagnes d'adhésion de notre personnel au vaccin, parce que ça aussi c'est quelque chose d'important. Il faut que la plupart des gens, puisqu'on n'est pas dans l'obligation aujourd'hui au Luxembourg, que la plupart des gens acceptent de se faire vacciner. Donc il faudra faire de la pédagogie et ça nos entreprises s'y intéressent et s'y appliquent.
L'industrie, vous l'avez dit, est un secteur plus international que d'autres, comme l'artisanat par exemple. Elle se procure les matières premières au-delà des frontières. Est-ce qu'elles sont plus chères aujourd'hui qu'elles ne l'étaient ?
Oui, il y a vraiment une flambée.
En raison du Covid ?
Alors, en raison du Covid, Et aussi, oui, en raison du fait que certaines industries ont été arrêtées longtemps ou qu'il n'y a plus de demande pendant des mois, donc remettre en route la production de certaines matières premières, ça prend du temps. Le transport, on l'a dit, est aussi maintenant bien plus compliqué par transport maritime. Donc c'est une conséquence du Covid, mais c'est une conséquence de la crise causée par le Covid, pas une conséquence de la maladie en tant que telle. Oui.
C'est surtout le transport maritime qui reste compliqué.
C'est surtout le transport maritime qui reste compliqué.
Tant que les frontières resteront ouvertes. Vous avez une peur particulière, je pense, d'une fermeture des frontières, parce que l'industrie aussi, elle écoule ses produits sur les marchés étrangers, avant tout.
Tout à fait. Donc, quand je dis le transport maritime, c'est bien entendu pour les produits. En ce qui concerne le déplacement des personnes en Europe, tout d'abord, c'est évidemment important. La libre circulation au sein de l'Europe, la libre circulation des personnes est un des fondements de la réussite du commerce. Et le fait qu'on est sous la menace de fermeture de frontières, notamment avec l'Allemagne, nous perturbe vraiment. Là aussi, on a bien préparé les choses au cas où ça devrait arriver. Ce serait compliqué pour les frontaliers, mais ça aurait aussi une autre incidence. Tous les fabricants de machines allemands qui doivent venir intervenir chez nous ne pourraient plus non plus le faire, ce qui pourrait parfois occasionner certaines ruptures de chaînes de production. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe et on espère que le bon sens triomphera et qu'on va rester dans le principe de la libre circulation des personnes.
Madame Michèle Detaï, présidente de la FEDIL. Madame Detaï, je ne vais pas vous laisser partir sans revenir sur une interview récente que vous avez accordée à nos confrères des RTL. Entretien retentissant qui vous a valu beaucoup de commentaires négatifs avant tout. Si c'était à refaire, vous diriez la même chose ?
Je dirais la même chose. Je dirais la même chose peut-être avec d'autres mots. Vous savez, quand on est chef d'entreprise, on va parfois assez vite. Et donc, je serais sans doute plus prudente dans les mots.
Rappelons peut-être les faits. Oui. Donc, vous avez été interrogé sur la décision judiciaire de permettre aux parlementaires d'examiner le contrat de concession entre l'État et RTL. Vous avez critiqué cette décision comme étant de la transparence excessive, si je puis dire, quelque chose qu'on pratiquait en général dans les dictatures.
Oui, alors, ce que je voulais dire sur les dictatures, une minute, c'est que dans une dictature, vous n'avez pas de privacy, vous n'avez plus aucune vie privée, ni pour les affaires, ni pour le personnel, ni pour la vie personnelle. Voilà ce que j'ai voulu dire. Donc ça, si c'était à refaire, je ne dirais plus cette phrase.
Là, on parle du droit de regard d'un Parlement sur l'utilisation des deniers publics.
Voilà, tout à fait. Alors là, ça pose aussi vraiment un problème à la FEDIL. Pourquoi ? D'abord, quelle est l'étendue de la question ? Est-ce que toutes les entreprises qui vont avoir des accords avec le LIST, qui est un centre de recherche public, vont devoir publier ? Auquel cas, beaucoup de secrets de fabrication seraient mis sur la place publique. C'est un exemple. Est-ce que si je demande un prêt à la Spurkes, je vais devoir accepter que peut-être tout le business plan pour les années futures de mon entreprise soit soumis aux 60 parlementaires. Bon, ça c'est un exemple. Donc, quelle sera l'étendue du domaine ? Ensuite, quelles seront les garanties que vraiment les parlementaires vont garder ça pour eux et ne vont pas en faire usage ? On a vu que le parlementaire le plus agité sur ce sujet a déjà quelque part dit que peut-être lui-même avait par rapport à RTL peut-être un conflit d'intérêts, mais qu'il n'en était pas sûr. Imaginez ici toutes les start-up.
Vous parlez de Sven Clément.
Oui. Donc imaginez ici une start-up qui a vraiment un beau produit, qui est hébergé dans une structure de l'État, qui fait confiance aux listes et puis qui risque de voir peut-être son produit soumis à 60 députés. Mmh. Ensuite, les NDA, les clauses de confidentialité, moi j'en signe au moins deux par semaine, ça dure parfois 20 ans. Où seront les députés d'aujourd'hui dans 20 ans ? Combien de temps cette application de confidentialité va-t-elle leur être appliquée ? Et quid ? Quelles sanctions en cas de transgression ? Et puis enfin, est-ce que ça va vraiment donner confiance aux investisseurs de venir ici s'ils savent que il y a toute une série de contraintes, mais qu'il y en a une particulière, c'est qu'au moins 60 personnes, au moins 60, si plus les suppléants, etc., vont avoir un œil sur leur contrat passé avec l'État. Donc, c'est toutes ces questions-là, au-delà de la sympathie qu'on pourrait avoir pour une transparence totale, qui, moi, me dérange particulièrement et qui dérange beaucoup de nos membres.
Mais en tant qu'ancienne parlementaire, vous ne contestez pas le droit des parlements de contrôler l'exécutif.
Bien entendu, mais un contrôle qui ne porte pas sur des choses aussi précises, parce que c'est un vrai métier et parce qu'on n'aurait pas le temps. Donc, évidemment, mais ce que je conteste peut-être, même si on ne peut pas contester une décision judiciaire, c'est qu'on considère que le Parlement est un organe de l'État dans ce type de contrat. Là, j'ai un peu plus de mal.
Donc, si c'était à refaire, vous diriez la même chose, en d'autres mots, mais la même chose.
Voilà, je dirais la même chose, plus poliment. Et voilà, mais mon intention, je l'ai dit, n'était pas du tout de blesser qui que ce soit. C'était juste de défendre l'attractivité de la place pour l'industrie.
La Frère Présidente, Infunda Fadil, Michel de Taille, Madame de Taille, merci beaucoup pour cet entretien.